Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à La Communique. Retour après quelques semaines, voire petits mois de vacances et de fêtes. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Thierry.
Bonjour Dan Leclerc.
Bonjour Thierry Rose. Nous voilà de retour à notre studio, dans nos studios préférés. Et nous démarrons tout de suite cette communique de rentrée avec une tablée ô combien riche et instructive, car nous recevons aujourd'hui plusieurs personnes. Les premiers, je vais vous les présenter. Il s'agit de l'équipe dirigeante de Rodéo Dames, Claire Auduit et Baptiste Cogitor, bonjour à vous.
Bonjour Dan.
Bonjour Dan.
Ça va, vous êtes en forme?
Oh, parfait.
Vous êtes ravis, j'imagine, d'être parmi nous, comme nous sommes ravis de vous avoir.
Merci de nous accueillir.
Et bien, c'est avec grand plaisir. Aujourd'hui, les gardiens des lieux sur les traces des anciennes synagogues d'Alsace, exposition présentée par Rodéo Dames, qui a été inaugurée vendredi dernier à Célestat. Et pour en parler, Claire Auduit et Baptiste Cogitor, eh bien, je vais laisser l'ouverture à honneur Dames, Baptiste, hein, qu'est-ce que vous êtes
plaisir,
d'accord,
ouais.
Allez, Claire Auduit, Rodéo Dames, les gardiens des lieux sur les traces des anciennes synagogues d'Alsace, qu'est-ce que c'est?
Alors, il s'agit d'une exposition et d'un livre sur, effectivement, les anciennes synagogues d'Alsace qui ont été réaffectées. Baptiste Cogitor et Pascal Koenig sont partis pendant 2 ans sur les routes d'Alsace, dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, et ils sont allés à la rencontre de ces personnes qu'ils ont appelées les gardiens des lieux. Ces personnes qui actuellement s'occupent de ces anciennes synagogues, qui sont devenues des cinémas, des salles de spectacle, des gymnases, des maisons de particuliers, des ateliers d'artistes. Donc c'est vraiment une enquête contemporaine pour essayer de savoir ce que sont devenus ces lieux et qui s'en occupe actuellement. Et la question de fond finalement, c'est que devient un lieu de culte quand il n'y a plus assez de communauté pour s'en occuper. Évidemment, on explique ce grand vide par l'exode rural, mais aussi bien sûr par la Shoah, qui est un des thèmes sur lequel nous travaillons le plus.
Et sur lequel vous avez travaillé tout particulièrement, parce que vous avez fait une thèse sur le sujet. On en reparlera un petit peu plus tard, hein, sur le théâtre dans les camps de concentration. Donc c'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, si je puis l'exprimer ainsi. Vous nous expliquerez bien sûr, j'espère, pourquoi et comment est-ce qu'est venue cette envie de partager tout cela.
Ah, Claire Auduit est venue à notre émission déjà pour présenter justement ce travail il y a quelques années.
À nos débuts,
on va en reparler, mais j'aimerais juste que vous vous présentiez dans quel contexte vous avez fait ces travaux.
Alors,
qui êtes-vous, d'où venez-vous, on a l'habitude de dire dans cette émission.
J'ai mal repris mes bonnes habitudes de démarrage.
Alors j'ai réalisé un doctorat d'histoire contemporaine et de théâtre à l'université de Strasbourg et à la Freie Universität de Berlin. Je viens de rendre ma thèse il y a quelques semaines et donc je soutiens cet automne à Strasbourg. Et le sujet de ma thèse porte sur le théâtre dans les camps nazis. J'ai ajouté 3 exceptions aux camps de concentration sur lesquels je travaille. C'est le camp d'Auschwitz, le ghetto de Térésine et le ghetto de Westerbork, où il y a eu beaucoup de créations artistiques dans ces 3 lieux, beaucoup de choses de propagande aussi, notamment à Térésine et Westerbork, mais pas mal de créations clandestines. Et du coup, ça m'intéressait de voir un petit peu cette dualité de la création et du statut artistique dans ces conditions.
Qu'est-ce qui vous a poussé, Claire Auduit, à intégrer ces sujets, à les travailler, à en aller jusqu'au doctorat? Qu'est-ce qui vous a poussé à cela?
Quel est votre lien avec le judaïsme?
Aucun lien avec le judaïsme, un lien, un intérêt intellectuel, mais aucun lien ni familial, ni... Non, pas de lien.
C'est
désolé.
C'est d'autant plus incroyable, d'autant plus extraordinaire.
Non, on est une famille catholique, et donc j'ai été élevée dans la foi catholique, mais j'ai beaucoup d'intérêt pour les études historiques, et je pense qu'on a une région quand même un peu particulière, l'Alsace, avec notre annexion, avec toute cette... On est à peu près forcément bercé dans un terreau mémoriel fort. Et donc, c'est comme ça que Baptiste s'intéressait aussi aux synagogues, à force d'aller dans les villages et de constater qu'il y avait un tel patrimoine, une telle histoire.
Il y a un réel intérêt aussi pour le témoignage, Baptiste. Le fait de rencontrer des témoins, que ce soit des témoins de la Shoah, d'anciens déportés, des gens qui ont... C'est pas seulement un intérêt historique, quoi. Il y a aussi un intérêt contemporain de voir comment ces personnes-là portent témoignage, quoi.
Ouais, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'archives, évidemment, des camps, comme c'était interdit d'avoir un crayon, c'était très dangereux d'avoir du papier, il fallait tout conserver. Donc la mémoire du théâtre dans les camps, c'est une mémoire je dirais, orale. Et donc, il va falloir, enfin, il a fallu plutôt, puisque le travail est en partie déjà réalisé, en tout cas pour ma thèse. Après, il y aura d'autres choses.
Donc, vous avez encore trouvé des témoins de ce judaïsme rural qui est si important en Alsace?
Alors ouais, là, moi, je parlais de ma thèse précisément parce que en judaïsme rural, j'aurais pas eu assez d'informations pour parler de thèse.
Je
m'adresse
peut-être plutôt à Baptiste qui a fait cette enquête. Donc, vous avez trouvé encore des témoins de ce judaïsme rural?
Oui, quelques-uns. Roger Kahn, qu'on s'est permis de mettre dans notre campagne de communication, enfin avec sur les affiches, les flyers. Lui, c'est...
Il y a une sacrée bouille.
Voilà, c'est un vrai personnage, vrai gardien. C'est un vrai gardien du lieu. Ouais. Il a les clés de l'ancienne synagogue de Westhoffen, qu'il fait visiter.
Westhoffen et son cimetière, surtout.
Ouais. Donc,
d'où sont issus les Debré, je crois.
C'est ça, la grande famille
Debré. La famille Debré...
Il y a eu quelques
ministres, etc.
Donc lui a un vrai intérêt. Quand il nous a fait visiter ce lieu, on sentait toute l'émotion, tout son passé, tous ses souvenirs. Pour lui, les fidèles étaient encore là dans ces lieux. Donc c'est
parce que je crois qu'en France, et c'est vrai, on n'a pas la mesure de ce qu'était le judaïsme alsacien.
Oui, c'était quelque
avant
chose
la guerre,
d'assez énorme. Il y avait plus de 200 synagogues en Alsace.
Sur 240 en France.
Sur 240 en France, c'était une des plus grandes communautés qui est partie des campagnes progressivement. D'abord au 19e siècle avec la révolution industrielle, mais bien sûr, ce qui a vraiment donné un coup d'arrêt, ce qui a détruit vraiment le judaïsme alsacien dans sa spécificité rurale, ça a été la Shoah.
Mais il y a aussi eu l'annexion de 1870, qui a fait fuir quand même beaucoup de...
Il y a eu plusieurs phases d'exode.
De fidèles à la République.
Notamment
à Paris, les grandes familles...
À Reichshoffen, par exemple, il y a quelque chose qui m'a surpris dans l'ancienne synagogue de Reichshoffen. Il y a la prière à la République. Moi, je ne savais pas que les Juifs priaient pour la République.
Vous l'avez ici aussi, à Strasbourg.
Mais dans le monde entier.
Dans
la synagogue de la paix.
Ouais, c'est quelque chose que j'ai découvert. Ça m'a frappé. On ne m'avait jamais dit ça. Et j'ai découvert l'attachement.
Mais c'est une des lois du judaïsme d'être... Ouais. Reconnaissant, d'être loyaliste, on va dire, par rapport au pays qui nous a reçus, notamment.
Ouais.
Et donc, les Juifs sont des Juifs de citoyenneté française avant tout. Ils sont avant tout républicains.
Mais c'est d'autant plus émouvant, en fait, de voir cette prière à la République dans un lieu où les Juifs ne sont plus. Enfin, en l'occurrence, dans cette synagogue-là, qui ne sert plus ou qu'à de très rares occasions, quoi. Donc on voit que malgré cette fidélité, ils ont dû quand même quitter les lieux. Quoi.
Alors dans votre enquête, vous avez parlé également à des non-juifs.
Oui, enfin, c'est la plupart en fait des gens.
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les relations qu'il y avait entre les communautés du village.
Oui, par exemple à Muttersholz ou à Westhoffen aussi, sont des villages triconfessionnels. Donc on a les catholiques, les protestants et les juifs qui vivaient dans une relative harmonie avec parfois des époques un peu plus tendues, notamment à Bergheim, ça a été le cas, c'est ce que je raconte un peu dans le livre, avec parfois des périodes d'émeutes, mais globalement il y avait quand même sans se raconter d'histoire, une vraie cohabitation qu'on voit aussi dans l'architecture des synagogues, puisqu'avant le 19e siècle, on a beaucoup de synagogues cachées. La plupart des synagogues sont aménagées dans des petites ruelles qu'on voit mal.
On voit juste un linteau
avec une inscription en hébreu. Et à partir du 19e siècle, avec la Révolution française avant, où on redonne en gros le droit de cité aux Juifs, les synagogues s'étoffent, deviennent plus visibles, plus importantes.
Notamment sous l'ère allemande.
Oui, aussi.
Deviennent consistoriales, enfin, au sens de ce qu'on avait avec Kléber, oui.
Oui, effectivement. Et du coup, les Juifs sont mieux intégrés aussi et prennent vraiment leur place, la place qui est la leur, dans les villages d'Alsace.
Oui, on entend souvent des familles où les descendants disent « Ah, ma grand-mère était Shabbos Goy dans une famille juive, donc il y avait une entraide entre les voisins, dans le voisinage. »
Et c'est une entraide qui a continué pour l'entretien des lieux, c'est-à-dire quand les juifs n'étaient plus là, quand les synagogues étaient vides, eh bien c'était parfois le bedeau, le sacristain qui s'occupait de l'église, qui donnait un petit coup de balai, qui entretenait les lieux, et c'est quelque chose qui a duré assez longtemps, qui a perduré par la suite.
Alors aujourd'hui, notre consistoire du Bas-Rhin, celui du Haut-Rhin, a un petit peu de mal à entretenir ce patrimoine. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont été vendus, mais nous focalisons sur certaines synagogues qui seront réhabilitées. J'ai pas les noms en tête.
Le consistoire y revient, c'est-à-dire que pendant des années, après la Deuxième Guerre, on était. Le consistoire avait, de ce que j'ai compris, moi j'ai découvert ce dossier en travaillant dessus, j'ai découvert l'importance du judaïsme alsacien en discutant avec plusieurs personnes, notamment des personnes du consistoire, Michel Jablon, qui est chargé de la conservation des cimetières et des synagogues aujourd'hui. Pendant des années, le consistoire a été plutôt dans une politique très pragmatique de gestion. Donc il n'y avait pas lieu pour entretenir des lieux où les juifs n'étaient plus. Donc on vendait assez facilement, parfois pour pas grand-chose, ces anciennes synagogues. Et depuis quelques années, il y a eu un retour en arrière, mais un retour qui s'est accompagné d'une vraie redécouverte pour le patrimoine en général et pour le patrimoine juif en particulier. Donc maintenant, c'est vrai que les consistoires sont beaucoup plus attentifs au devenir de ces synagogues, à leur avenir. Et on n'est plus dans une période de cession systématique des lieux. Quoi.
Alors j'en profite pour faire une petite parenthèse sur l'existence d'une fondation du patrimoine juif qui existe depuis peu, mais qui existe, qui a été lancée, l'année dernière en année juive, en 2013, qui a été lancée. Et on va en reparler, on invitera les responsables de cette fondation, mais c'est un moyen assez efficace pour entretenir nos synagogues grâce à des dons, à des legs et des dons, notamment ISF, puisque c'est une fondation. Je referme la parenthèse, c'était juste pour nos auditeurs qui seraient intéressés, juifs ou non juifs.
C'est vrai que la piste cette relation avec le consistoire, comment est-ce que vous êtes allé spontanément les voir en leur parlant de votre projet? Comment est-ce qu'ils ont accueilli ça? Et quelle a été votre relation aujourd'hui avec le consistoire israélite?
Alors, je dois dire que je ne suis pas d'abord tourné vers eux. C'est-à-dire que je voulais d'abord voir les gardiens. En dehors de toute, on va dire, toute considération politique, parce qu'il y a aussi une dimension politique au dossier, qui conserve quoi, avec quels moyens. Donc je ne suis pas tourné d'abord vers le consistoire, j'y suis venu après. Je parlais de Michel Jablon, on s'est rencontrés, on a beaucoup discuté, et c'est elle qui m'a expliqué un petit peu l'histoire du consistoire, comment le consistoire a géré ses lieux. Donc j'ai... Mais je reste ouvert, c'est-à-dire que moi j'ai hâte de rencontrer des responsables du consistoire et plus généralement de la communauté pour avoir leur réaction. Je veux dire, quand on fait des projets comme ça et qu'on ne fait pas partie de la communauté, on est forcément un peu exposé, voire à des critiques, parce que pour le consistoire, j'imagine que c'est pas non plus... pas toujours très gratifiant qu'on rappelle que oui, cette synagogue, par exemple à Bouxwiller, quand Gilbert Weil, qui a fondé le musée du judaïsme alsacien à Bouxwiller, dans l'ancienne synagogue la synagogue de son enfance, il l'a fait, ça a été un vrai combat contre le consistoire du Bas-Rhin. Donc c'est...
Il est venu nous raconter cela à ce micro.
Donc vous voyez, il y a eu des tensions, des incompréhensions des deux côtés. Donc j'imagine bien que revenir sur cette histoire aujourd'hui, on est un peu plus apaisé, c'est peut-être plus simple. Mais je suis tout à fait prêt, moi, à avoir des critiques, qu'elles soient positives ou négatives, une réaction aussi par rapport à ce projet.
Mais il y a aussi eu des vrais soutiens de la part de certaines communautés. Je pense à Janine Elkoubi, qui était attentive au projet. Je pense aussi à la Fondation du Mémorial de la Shoah. Je pense à la Fondation de judaïsme français, qui sont des partenaires du projet. Donc il y a aussi une vraie attention.
Ouais. Et... Il y a comme dans tout type de projet où la politique est l'âme, hein, parce que je crois qu'on peut, l'âme du lieu, des personnes, et puis la tradition rentre en ligne de compte. L'émotion que cela suscite est évidemment importante et n'a pas dû être toujours évidente. C'est bien clair que vous le rappeliez.
Mais ce qui est vrai, c'est moi ce qu'on m'a dit, par exemple, la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, ils étaient assez touchés que ce soit un goy qui s'occupe s'occupe de ça. Et moi ça me paraissait assez normal. Je l'ai pas fait parce que j'étais goy ou si j'avais été juif, je l'aurais fait de la même manière.
Mais... Justement, comment c'est ça que j'aimerais. Comment c'est venu? Comment vous êtes réveillé un matin en disant tiens, on va en faire
C'est à peu près ça.
J'imaginais qu'il y avait autre chose. Mais non,
c'est à peu près aussi simple que ça. Alors c'est vrai que ça fait des années que je m'intéresse aux lieux de mémoire en général. J'avais fait une exposition photo sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale. Donc j'étais parti un peu sur l'ancienne ligne de front à la recherche de traces invisibles, c'est-à-dire j'ai fait une série de photos de champs, donc absolument tout à fait banales, enfin d'une banalité ahurissante. Et c'est justement à travers cette banalité, cette normalité du paysage que j'entendais un petit peu rappeler les souvenirs de cette guerre à un moment où les témoins disparaissaient un par un. Et c'est un petit peu pareil avec les gardiens des lieux sur les traces des anciennes synagogues d'Alsace. Donc je continuais à m'intéresser à des lieux de mémoire en général, et puis c'est à force d'aller dans des petits villages en Alsace au fil de mes promenades, de mes balades, que je me suis rendu compte de ce maillage ahurissant, quoi. C'est-à-dire que vous avez une synagogue dans un petit village qui devait faire 500, 700, parfois 1000 habitants, et puis le village un kilomètre plus loin a aussi sa synagogue pour à peu près la même proportion. Donc voir autant de synagogues. Moi, je viens d'une vallée, la vallée de Kaysersberg, où il n'y a pas de synagogue. Donc enfant, j'étais pas du tout attentif à ces constructions, à ces édifices-là. Et quand j'ai vu qu'il y en avait autant dans la plaine d'Alsace, quoi, que ce soit de Wissembourg jusqu'à Saint-Louis, c'est là que je me suis vraiment intéressé. J'ai essayé de comprendre pourquoi il y en avait eu autant et surtout à quoi elles pouvaient bien servir aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait de 200 et quelques synagogues qui ne fonctionnent plus? Et c'est comme ça que j'ai déroulé un petit peu le fil. J'ai fait l'inventaire un petit peu de ces lieux-là. Et tout de suite, ce qui m'importait, c'était d'aller à la rencontre de ces personnes. C'est-à-dire, moi, je m'y intéresse. Est-ce que les personnes qui vivent ou qui travaillent dans ces anciennes synagogues s'y intéressent aussi?
Et alors justement, quels ont été les personnages les plus marquants que vous avez rencontrés? On évoquait Roger Kahn de Westhoffen qui a, comme le disait Thierry Ross, une vraie bouille. C'est vous qui avez pris les photos?
Alors, on était deux. Sont surtout des photos de Pascal Koenig, mon ami photographe qui m'a accompagné sur ces routes. Il y en a quelques-unes de moi aussi dans le bouquin.
Elles sont absolument superbes. Hein, du peu que nous pouvons les voir sur le dépliant qui annonce l'ensemble des dates, on reviendra dessus évidemment, elles sont vraiment magnifiques. Quelle est cette rencontre avec ces personnages, lesquels vous ont le plus marqué, et comment vivent-ils aujourd'hui leur présence et leur travail, ou leur passion, ou leur âme dans ces anciennes synagogues?
Alors moi, je les appelle les gardiens des lieux, c'est une expression que j'ai trouvée pour parler d'eux. Parfois, ce sont des gardiens, alors il y a plusieurs types de gardiens, on va dire. Il y a les vrais gardiens, on peut dire presque les gardiens du temple, donc Gilbert Weil à Buxwiller, Roger Kahn à Westhoffen, qui sont eux-mêmes juifs et qui défendent
corps
et âme, bec et ongles, toute leur énergie, ils ont mis leur vie dans ces lieux-là pour les sauvegarder. Mais ce sont pas les gardiens, ils sont pas majoritaires en fait dans le paysage des anciennes synagogues d'Alsace. La plupart des gardiens que j'ai rencontrés sont des gens qui n'ont pas de lien direct avec le judaïsme, qui ne sont pas juifs eux-mêmes, qui se sont retrouvés dans ces endroits par une série de circonstances et de hasards. C'est l'agriculteur qui a racheté aux enchères la synagogue qui était à côté de sa ferme et qui l'utilise comme hangar, donc il range ses machines dedans. C'est le lieutenant de pompiers qui gère l'entrepôt où sont garés les camions à Chervillers, par exemple, les camions de pompiers. C'est l'homme qui gère le cinéma de Ribeauvillé, Christian Schmitt, par exemple, qui sait qu'il est dans une ancienne synagogue qui elle-même servait d'atelier de ferronnerie avant qu'elle devienne un cinéma. Donc il n'y a pas de profil type en fait des gardiens, mais il y a quand même chez les, on va dire, les plus simples, ou ceux qui ont le moins de raisons possibles de s'intéresser au judaïsme, une conscience. Je pense à un agriculteur que j'ai rencontré à Zellwiller, qui m'a dit, voilà, moi j'ai démonté le portail pour faire entrer mes machines, pour agrandir l'entrée. Mais le portail, il est là, et je ne vais pas le vendre, je ne vais pas le balancer, il reste ici, voilà, si quelqu'un me le demande, quelqu'un de la communauté, je le garde au cas où. Donc c'est quelque chose d'assez typique peut-être dans le...
Un vrai respect.
Un respect qui peut parfois choquer. Moi je comprends que Gilbert Weil, par exemple, m'ait parlé lui de profanation. Lui ça choquait qu'on mette des machines dans une synagogue. Moi, je dis souvent, je suis pas là pour juger. Hein. J'ai une formation de journaliste. La première chose qu'on apprend dans le journalisme, c'est les faits. Ne pas juger, c'est raconter les faits, les vérifier, les recroiser. Mais je suis pas là pour dire ce qui est une bonne affectation, une bonne réaffectation ou une mauvaise.
Cependant, les synagogues, avant d'être cédées par le consistoire, sont désacralisées.
Oui.
Et elles ne sont pas vendues à n'importe qui. C'est-à-dire que
c'est vrai qu'il y a des.
On parlait de cinéma tout à l'heure. Oui. C'est limite.
Oui, parce que il faut rappeler aussi que les nazis ont transformé aussi des synagogues en cinéma ou en écurie parfois. Donc il y avait une clause quand un particulier achète une synagogue directement auprès du consistoire, il y a une clause qui indique que le nouveau propriétaire ne doit pas faire déshonneur au lieu, ne doit pas le profaner, le déshonorer. Donc pas de lieu de fête, pas de lieu de débauche, pas d'alcool, pas d'animaux. Mais le problème, c'est en quelque sorte quand ce propriétaire-là
Revend.
Il n'y a pas de clause, à ma connaissance, qui l'oblige à le céder à quelqu'un en particulier. Et puis, il y a un autre problème, c'est-à-dire que le consistoire vend pour que les lieux ne soient pas détruits. Mais si le propriétaire revend à quelqu'un qui n'en a pas l'utilité ou qui veut en faire autre chose, c'est ce qui s'est passé à Stotzheim par exemple. Je suis arrivé, le propriétaire venait d'abattre 3 murs sur 4 d'une synagogue du XVIIIe siècle. Et me disait, bah oui, j'ai conscience que ça fait partie du patrimoine du village, mais qu'est-ce que vous voulez, moi j'ai pas les moyens de l'entretenir, et puis la mairie a pas voulu m'aider, et etc., etc. Donc ouais. c'est compliqué.
C'est sûr que c'est du patrimoine juif, mais c'est avant tout, comme vous le disiez, du patrimoine alsacien. Je pense que les non-juifs sont conscients de l'héritage qu'ils ont dans leur village.
C'est du patrimoine alsacien, au-delà de ça, c'est un patrimoine humain. Je veux dire, c'est vrai que je me suis concentré, moi, sur l'Alsace, parce que c'est la région que je connais, que j'avais envie de redécouvrir à travers ce prisme-là. Mais je veux dire, on aurait pu étendre ce petit inventaire à l'échelle européenne. En Pologne, on a les mêmes problèmes. En Lituanie, les synagogues s'effondrent aussi. Il y a beaucoup de synagogues en bois là-bas. En Allemagne aussi, l'Allemagne a une autre histoire, mais les synagogues qui sont encore debout, qui ont échappé plus ou moins à la nuit de cristal, sont réutilisées vraiment comme des lieux de culture, beaucoup plus que chez nous, mais il y en a beaucoup moins.
Bon, bref. Je pense qu'effectivement, il faut concentrer ces efforts sur quelques lieux de culte significatifs à perpétuer, c'est ce que fait le consistoire. Et malheureusement, sur les 200 synagogues, on n'arrivera pas à faire 200 lieux de mémoire. Il y a un phénomène parallèle à ces synagogues réhabilitées et dont l'usage a changé, c'est les églises. On entend notamment en Italie des artistes qui s'installent dans les églises pour y vivre.
Oui, c'est d'ailleurs drôle que vous parliez de l'exemple italien, parce que j'ai découvert ça en travaillant sur les synagogues alsaciennes. J'ai trouvé un photographe italien qui a fait le même travail sur les églises baroques en Italie. Et je voyais les mêmes photos, les mêmes transformations des églises baroques qui deviennent garages mécaniques, ateliers d'artistes, salles de séminaires, etc. Donc j'ai envie de dire que les juifs ont peut-être un temps d'avance sur les chrétiens. Les synagogues précèdent un peu les églises de ce côté-là.
C'est le principe du peuple élu.
Ouais. c'est son avantage, on va dire.
Je vais aborder quand est-ce que ça allait venir.
Mais c'est vrai que c'est des questions que j'ai discutées avec un organisme qui s'appelle l'Observatoire du patrimoine religieux, qui est chargé de veiller à la conservation,
Pierre Meyer, non ?
Il y a ça. Alors moi, j'ai rencontré deux personnes
à
Paris. Oui, il y en a un peu partout, mais c'est l'Observatoire est national. Donc ils ont tout un maillage. Et en discutant avec eux, effectivement, ils me disaient que ces problématiques commencent à se poser. On commence à détruire des églises aussi, à se poser la question de la réaffectation de ces lieux de culte. Et je crois qu'il y a une anticipation un peu chez les Juifs. C'est venu plus tôt. Mais les questions, finalement, sont assez semblables. Même si, il faut peut-être le rappeler, vous avez dit la synagogue est désacralisée. Il n'y a pas le même attachement, je crois, au lieu lui-même chez les juifs que chez les chrétiens. C'est-à-dire que chez les juifs, il faut, je crois, 10 hommes et une Torah pour consacrer une synagogue. Du coup, c'est peut-être plus facile aussi de la déconsacrer. Mais je pense que vous en savez plus que moi là-dessus.
Pas beaucoup, Féroce. Bon. Il y a eu récemment un petit événement, je ne sais plus où c'était, c'était à Benfeld, où on a retrouvé dans des faux plafonds...
À Dambach, oui.
À Dambach, la ville, voilà.
Qui est devenu maintenant, qui a été inauguré en salle culturelle il y a 10 jours à peu près. Donc on
et
est
en
vraiment...
faisant les travaux, on a retrouvé des tonnes et des tonnes de...
De vieux livres du XVIIe siècle. Alors, certains spécialistes disent que c'est une Geniza, donc un lieu où on entrepose les livres, les objets livres sacrés, usagés, voilà, où le mot de Dieu est écrit, pour ne pas les détruire. Moi, j'ai eu d'autres échos, donc c'est un détail, mais je pense par exemple à des personnes qui ont utilisé la synagogue. Ils savaient pas au départ que c'était une synagogue. C'est des personnes à Isenheim qui sont à la fois dans l'exposition et dans le livre. Ils ont acheté un lieu, une maison avec une espèce de petite maison annexe qui était remplie de débris, enfin de saleté. Donc ils l'ont racheté à un propriétaire avant eux. Ils ont évacué les meubles et tout. Et un de leurs amis juifs est venu, donc eux-mêmes ne sont pas juifs, et un de leurs amis est venu en disant « Mais tiens, c'est curieux, ça ressemble à une synagogue. » Et on avait perdu la mémoire, en fait, de l'ancienne synagogue d'Isenheim. Et eux trouvaient que c'était vachement bien, qu'ils y étaient bien dans ce lieu quand ils avaient fini leur journée de travail. Ils se sentaient apaisés dans ce lieu, mais sans savoir que c'était un ancien lieu de culte. Et pareil, en faisant les travaux, En démontant les plafonds, ils ont trouvé des petits fragments de livres qui devaient être voilà, mis dans cette guénisa, dans les faux plafonds. Ils ont gardé quelques morceaux, ils n'ont pas trouvé grand-chose, mais ils ont gardé ça un petit peu en témoignage de ce lieu et qu'ils ont vraiment redécouvert. Et d'ailleurs, depuis qu'ils ont appris que c'était une synagogue, le nom de leur rue a changé. C'était rue Traversière et c'est devenu un passe de la synagogue. C'est quelque chose que je raconte dans le livre.
À
Isenheim, la ville de Matthias Grünewald. Ouais, ouais.
Alors revenons peut-être sur l'exposition photo, Dan.
Alors, l'exposition photo, je voulais juste faire aussi également le lien avec Rodéodame. En fait, Rodéodame, votre rencontre Claire Audieu avec Baptiste Cogitor, c'est Rodéodame qui chapeaute l'ensemble de cette, qui produit en fait votre travail. C'est comme ça qu'on pourrait le, pourrait le définir.
On s'est même rencontré avant de faire Rodéodame.
Vous êtes même rencontré avant Rodéodame, d'accord. Et après Rodéodame, je n'en demanderai pas plus. Rodéodame a vu le jour et est devenue en fait une sorte d'association de production parce que vous êtes également éditeur.
Alors, compagnie de théâtre et maison d'édition.
Compagnie de théâtre.
Ça, ce sont nos deux titres officiels. Après, vous voyez, on fait des expos, on fait plein d'autres choses et on a tendance peut-être à s'éparpiller, diraient certains, mais moi j'ai l'impression qu'on va toujours un peu dans la même direction quand même.
Oui, c'est guidé par la même âme, hein, si je puis le dire. Combien de titres votre maison d'édition aujourd'hui?
Je pense qu'on en a une quinzaine.
Dont beaucoup ont été écrits par vos soins, si ce n'est pas la totalité.
Pas mal ont été écrits par nous deux, oui.
Mais il y a quelques ouvrages collectifs quand même. Donc le but, c'est pas de s'auto-éditer, c'est vraiment d'ouvrir. Là, je parlais de Pascal Koenig, qui est le photographe, où on essaye vraiment de faire des ouvrages collectifs où chacun contribue, apporte sa pierre à l'édifice, quoi.
Alors juste pour parce qu'on va évidemment reparler du livre photo, on peut le commander sur internet par courriel, hein, sur Rodéodame. Il suffit de contacter Claire Audouy, donc qui vous êtes directrice artistique. Alors, sur www.rodéodame.fr, rodéodame.fr. Il est bon de le préciser, je le rappellerai encore pour qu'on puisse.
Est-ce que vous avez été contacté par la Vidzo cette année pour Ah ben on va le faire.
Le
salon du livre de la Vidzo,
c'est juste indispensable que vous y soyez.
D'accord, vous faites bien de nous coacher.
Oui, on vous donnera les coordonnées parce que ça me semble tout à fait important que vous soyez présent. Alors revenons sur ce livre photo, Le gardien des lieux, 180 pages dédiées
à 25 lieux sur les plus de 200 qui existent encore en Alsace.
25 pages, 25 euros, donc c'est 1 euro par page.
25 lieux. Oui, alors donc c'est un livre qui fonctionne avec une exposition, donc visible pour l'instant en ce moment à Célestat, puis qui va bouger un petit peu en Alsace. D'ailleurs, l'exposition va être présentée dans une ancienne synagogue, celle de Bergheim, qui est aujourd'hui une salle polyvalente, une salle d'exposition. C'était important, c'est une mise en abîme en quelque sorte, puisque ce lieu est dans le livre et on y retourne pour présenter les photos. Donc ce sont 20 photos. Donc de 10 lieux, c'est une sélection de 10 lieux sur les 25 où nous sommes rendus et qui fonctionne par paire, c'est-à-dire que comme dans le livre, vous avez une grande photo du lieu frontale, vide, et à côté le portrait du gardien, enfin de celui que j'appelle le gardien. Donc vous avez en vrac, hein, vous avez un ancien gymnase à Mommenheim qui a été refait à neuf, une salle de sport magnifique, à l'intérieur d'une ancienne synagogue dont on ne soupçonne pas la fonction aujourd'hui. Quand vous voyez la synagogue de Mommenheim, vous ne dites pas qu'il y a un gymnase à l'intérieur, et c'est celle-là, on voit, et à côté on voit le portrait d'une femme qui enseigne le judo dans cette synagogue. Et donc, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que ça fait d'enseigner...
Fabienne Coraini, il l'a bien nommé.
C'est ça. qu'est-ce que ça lui fait de faire du judo dans un ancien lieu de culte juif? Et elle me disait, bah oui, c'était pas évident, quoi, au départ, de faire un art martial, un sport de combat dans ce lieu. Vous en avez d'autres, il y a le cinéma dont on parlait tout à l'heure, le cinéma de Ribeauvillé, qui est dans une ancienne synagogue, la caserne de pompiers de Chervillers, et puis d'autres lieux dont on ne connaît pas encore la réaffectation future. C'est le cas de Westhofen, où il y a de temps en temps des concerts, mais la synagogue de Westhofen, comme celle de Balbrand d'ailleurs, est encore dans son jus. Enfin, l'intérieur est vraiment resté en l'état. Et donc ça fait partie, elle fait partie, cette synagogue de Westhofen, de lieux dont on ne sait pas encore ce qui va s'y passer. Ça va dépendre des projets, des finances, de l'action politique, des élus locaux. Elle est, je crois, comme la synagogue de Balbrand, sur les routes du judaïsme alsacien et européen. Donc elle est revenue un petit peu dans la mémoire collective, on y passe, on y fait des visites, mais pour l'instant, elle n'est pas vraiment le lieu de vie qu'on a pu trouver ailleurs, quoi. Donc il y a une réflexion qui commence aussi à être menée là-bas.
Alors, en dehors de ces expositions et ce livre, il y aura des lieux de rencontre également. Pour parler du livre, je note particulièrement le 9 janvier, à la librairie Kléber, qui est quand même pour nous un point d'intérêt important.
Mais c'est vrai qu'à Rodéo Dame, on essaye de faire les choses le plus grand possible. En fait, on essaye de lier toujours nos manifestations, que ce soit des expositions photos, des éditions de livres ou des pièces de théâtre, à des moments d'échange avec le public. Hein. C'est tout bête, mais pour nous, c'est vraiment important de pouvoir dialoguer avec le public. Donc là, on a effectivement la rencontre du 9 janvier avec Freddy Raphaël qui a beaucoup œuvré. Voilà, on ne va pas le présenter, mais il nous a beaucoup suivi. Il y aura Michel Jablon donc du Consistoire pour parler de cette réaffectation. Et puis le maire de Moutersols, Patrick Barbier, un maire écologiste qui mène un projet de réaffectation, alors qu'il n'aboutit pas encore, mais il compte bien le faire vivre, qui serait de transformer son actuel gymnase, puisque l'ancienne synagogue sert aujourd'hui à moitié de gymnase, à moitié de salle polyvalente. Il aimerait en faire, comme à Dambach-la-Ville, un vrai lieu de culture et remettre cette synagogue au cœur du village, puisqu'elle est vraiment au centre de Moutersols, donc à côté de Célestat. Donc voilà, c'est une discussion avec trois personnages qui sont liés à cette histoire. Et puis plus proche de nous, donc ça c'était le 9 janvier, mais l'exposition arrivera à Strasbourg dès le 12 novembre au Collège doctoral européen, donc sur le campus universitaire. Et là, ça sera un peu plus festif. Il y aura un peu de musique klezmer, donc j'espère que ça sera le moment aussi de dialoguer avec des membres de la communauté.
Alors, puisque vous parlez du klezmer et de cet intérêt que vous avez pour le patrimoine juif alsacien, est-ce que cette culture juive venue d'Europe de l'Est, venue d'Alsace, n'est pas en train de rentrer dans la culture, nationale? C'est plus un phénomène de mode, puisque le klezmer, maintenant, on en voit partout, dans les mariages, du klezmer.
Ça contribue aussi à une redécouverte du judaïsme. Je pense par exemple au festival des cultures juives de Cracovie, où vous avez des goïs qui ont fait revivre le quartier juif à travers la passion du klezmer. Donc on voit bien là que la musique permet de redécouvrir un petit peu les choses et l'histoire. Et je crois que partout en Europe, que ce soit en Ukraine, en Pologne, en Lituanie, on redécouvre l'histoire juive. Mais ce qui est paradoxal, c'est que cette redécouverte s'accompagne aussi parfois de remontées de nationalisme et d'antisémitisme aussi, quoi. Donc on n'en a jamais vraiment fini avec cette histoire.
Ouais, faut pas baisser la garde.
Ouais.
Alors, une question très pragmatique, Baptiste Cogitor. Comment vous financez tout cela ?
Alors, on finance, Claire peut en parler mieux que moi, mais on s'appuie sur des subventions et des mécènes, sur des dons, sur la vente des livres. Chaque livre vendu nous aide à financer de nouveaux projets aussi. Donc c'est le but pour nous le but c'est de vendre un maximum de livres et non pas pour l'argent, mais vraiment pour partager ces rencontres, diffuser un maximum. Donc on finance à coup de subvention et en montant des projets sur nos quelques heures perdues.
Et alors, c'est votre activité principale que de faire ça, parce que ça sous-entend que si vous avez des heures perdues, vous avez d'autres activités. Comment est-ce possible?
On trouve le temps. Non, c'est pas notre activité principale. On est engagé là-dedans. Moi je suis journaliste à côté.
C'est pas votre activité principale.
Non, j'essaye de
vous entendre et vous écouter. C'est vrai que j'aurais juré corps et âme que c'était que vous en étiez un permanent éclair. Claire également. Donc vous avez d'autres activités.
Oui, Claire fait du théâtre. Moi je suis journaliste. Donc c'est vrai que là, ce projet rejoint. C'est pas un projet purement journalistique, mais c'est vrai que c'est des rencontres, des témoignages, des interviews, recouper des sources. Donc ça rejoint un petit peu mon travail, mais. Mais non, pour vivre, je dois travailler autrement, quoi.
On va un petit peu revenir encore quelques minutes sur le travail de Claire, parce qu'on l'a pas beaucoup entendu, qu'elle nous avait présenté, notamment son travail de doctorat, qui doit intéresser nos auditeurs. donc sur ces pièces de théâtre qui ont été montées dans les camps de concentration. Alors, quels ont été les derniers travaux que vous avez faits depuis notre dernière émission?
Ah oui, ça a bien avancé depuis la dernière émission, puisque la thèse est effectivement finie et rendue. Elle sera bientôt soutenue. J'espère pouvoir l'éditer. Le grand projet ensuite, ce serait de faire une anthologie du théâtre concentrationnaire commentée pour que le grand public, tout comme on peut lire des poèmes écrits dans les tranchées ou dans les camps de concentration, que le grand public puisse vraiment savoir quel type de théâtre on faisait dans les camps. Et c'est assez surprenant parce que c'est très divers. Je pourrais pas vous dire le théâtre dans les camps c'était ça, parce qu'en fait il y avait du théâtre fait par des enfants. Je me souviens à Bergen-Belsen par Francine Christophe, qui était une petite fille juive qui a passé plusieurs mois à Bergen-Belsen et avec les autres enfants du camp. C'était une condition un peu spéciale là. Et ils ont monté une pièce de théâtre. Alors chacun avait une comptine en tête, une chanson. Il y en a un qui jonglait, il y en a un qui faisait un peu de mime. Et donc les enfants se sont fédérés, se sont rassemblés dans les latrines du camp. Ils ont répété, puis ils ont donné une seule fois la pièce pour la maman de Francine Christophe qui fêtait son anniversaire à ce moment-là. Donc là, une pièce purement enfantine. On voit un peu.
Donc c'était des déportés pour les déportés. C'était pas comme faisaient parfois les nazis, monter des orchestres, etc.
Alors là, c'était clandestin. C'était clandestin.
Comme les voix étouffées d'Amaury Duclozel.
Oui, exactement. Tout à fait.
Avec des talents qui sont malheureusement partis.
Oui, alors là, un peu particulier, parce que du coup, des enfants qui récitent des comptines, des poésies, des choses comme ça. Donc, plutôt une mémoire scolaire, je dirais. Les enfants vont puiser dans leurs souvenirs de scolarité qui remontaient à 1, 2 ou 3 ans, selon la date de leur déportation. Et puis après, il y aura des choses tout à fait professionnelles. Je pense à Charlotte Delbault, qui elle n'est pas juive, mais qui a été déportée parce que résistante, dans le commando de Reisko et à Ravensbrück, et qui va réussir à monter le malade imaginaire de Molière dans la plaine de Reisko, parce que tout simplement, elle a tout le texte en tête. Donc voilà, des professionnels qui vont s'engager. Je pense aussi à Sami Feder, qui lui était aussi de la communauté juive, et qui a monté le KZ Theater. Et le but du KZ Theater, c'est de raconter l'histoire de la Shoah par des rescapés de la Shoah qui sont en train de vivre et de survivre à la Shoah. Donc voilà, parfois des théâtres très communautaires et communautaristes, puisque Sami Feder disait qu'il ne voulait jouer qu'en yiddish avec des juifs pour d'autres juifs. Alors, donc assez saisissant et assez, je trouve, poignant dans ce contexte-là, parce que je dois le dire, en général, j'aime pas beaucoup le communautarisme, ni le nationalisme quand c'est exacerbé, mais là, une communauté qui est menacée, qui est évidemment dans les camps en voie d'extermination et qui se défend par la culture et qui fait revivre sa culture et qui partage ses racines avec de jeunes juifs aussi déportés, là, par contre, c'est poignant et il faut faire entendre ses voix.
Un moyen de survie.
Oui, tout à fait.
Comme nous le racontait Monsieur Samuel, qui nous a quittés, les mathématiques, la physique étaient pour lui, et si c'est un homme, de Primo Levi, c'est une manière de rester un homme, justement, de montrer son savoir et sa culture. C'était une manière de survie.
De retrouver une dignité, une humanité, de s'assurer qu'on avait bien été un homme avant, qu'on avait encore une tête, une mémoire, une capacité
de réflexion.
Oui, de réflexion aussi, se décentrer pour pouvoir analyser ce qui est en train de se passer. C'est ce que Germaine Tillion fera à Ravensbrück avec son opérette à Ravensbrück. Elle va écrire une pièce de théâtre où elle va expliquer le fonctionnement du camp de concentration à ses co-détenus. Parce que vous arrivez là-bas, mais vous comprenez pas comment ça se passe, on vous explique pas, vous comprenez pas l'allemand, vous comprenez pas le jargon nazi. Et donc Germaine Tillion va vraiment faire une enquête dans le camp et expliquer chaque mot, expliquer le rendement, combien chaque déporté rapporte au système. Et donc elle va vraiment, en tant qu'ethnologue, continuer son travail d'ethnologue dans le camp et partager ses connaissances.
Vous avez retrouvé des archives, vous êtes allé rencontrer des gens qui ont été au contact de toutes ces personnes. Comment est-ce que c'est, comment ça se fait que ça n'apparaît que 70 ans plus tard?
Parce qu'en fait, c'est une mémoire orale, il y a eu très très peu d'archives, et donc le travail a pu être fait notamment par Amaury Duclozel ou Francesco Lotoro pour la musique, ça a pu être fait pour la poésie, ça a pu être fait pour le dessin.
Mais qui vous vous êtes adressé? Comment est-ce que vous avez trouvé de l'information?
Ouais,
et comment est-ce que vous l'avez vérifié?
En fait, je me suis dit que les anciens déportés n'étaient pas forcément connectés sur Internet. Donc faire des appels Facebook ou via les réseaux sociaux, c'était pas la bonne idée.
C'est peu de chance.
Et donc j'ai réalisé des affiches en 4 langues, en polonais, en allemand, en anglais, en français. Et j'ai envoyé ces affiches dans le monde entier. J'envoyais ça en Israël, aux États-Unis, dans toute l'Europe, même plus loin, en fait, dans toutes les associations, ou presque, d'anciens résistants, d'anciens déportés, de victimes de la Shoah, de musées, d'archives, en me disant forcément là-bas, eux, ils auront les contacts, ou ils sauront où sont les personnes.
Ça a été aussi la méthodologie de votre thèse, j'imagine. Donc,
voilà, et donc après, j'ai eu des appels. Oui, bonjour, j'habite à New York, j'étais à Térésine et j'ai joué 55 fois une pièce. Oui, bonjour, je suis rescapée d'Auschwitz et j'habite à Tel Aviv. Et vraiment, j'ai eu des appels du monde entier. Puis après, je me suis rendu compte que ça me dépassait complètement. Je me suis dit, mais moi, toute seule, avec mon petit sac à dos, il va falloir que j'aille. Je ne parle pas toutes ces langues, je n'ai pas les moyens financiers. Et donc là, à nouveau des partenariats, la Fondation pour l'Histoire de la Shoah qui m'a soutenue dans mes déplacements, l'Université de Strasbourg, voilà, pour aller rencontrer tous ces témoins du monde entier qui parfois, quand j'arrivais, ne voulaient plus parler, ne pouvaient plus, n'avaient plus en tête ce qu'il fallait. Parfois, certains étaient morts entre-temps, entre le moment où on prenait rendez-vous et le moment où j'arrivais, parce que pour aller aux États-Unis, je ne peux pas partir du jour au lendemain. Donc voilà, il y a eu des rencontres avortées, comme celle de Germaine Tillion. J'ai loupé Germaine Tillion et j'en suis très triste, mais des rencontres aussi... superbe et surprenante. Et par exemple, je sais qu'à la soutenance de ma thèse, certains témoins seront là, ils sont présents parce qu'on a gardé des relations épistolaires, parce que quand on se raconte de telles choses, en fait, les témoins en ont très peu parlé à leur famille. C'est peut-être plus facile d'en parler avec un inconnu. Et j'étais cet inconnu, j'étais cet étranger, et donc c'était peut-être plus facile de me confier certaines choses.
Alors Claire, j'ai encore une petite question pour avoir parlé avec Amaury Duclosel, qui me disait que dans les partitions retrouvées issues des camps, il y avait des chefs-d'œuvre dignes de Mahler ou de grands compositeurs, et que c'était perdu pour le patrimoine de l'humanité, malheureusement, mais qu'il y avait dans les camps des très très grands compositeurs. Est-ce que au niveau du théâtre, c'était la même chose? Est-ce qu'il y avait de très grands auteurs qui sont malheureusement disparus dans les camps, qui auraient pu faire une très grande carrière?
Il y a tous les niveaux. À nouveau, il y a des choses dans les camps de prisonniers de guerre, ce sera des spectacles en dessous de la ceinture, où les hommes rigolent grassement, mais parce qu'ils n'ont pas vu de femme depuis 4 ou 5 ans. Et c'est un rire de camarades qui se tapent sur l'épaule et qui veulent rire et passer par ça. Il y a des grands intellectuels, il y a du théâtre de propagande, d'agitation propagande, du théâtre antifasciste. Donc vous avez...
Bundiste, non ? Il y avait du théâtre politique
Oui, là, il y en avait à Buchenwald. Il y avait une troupe qui a été créée qui s'appelait les Zébras, en référence à leur tenue zébrée. Voilà, et donc j'ai exhumé 28 pièces inédites. Alors ça semble rien, 28 pièces, mais en fait...
Et elles sont éditées
Non, justement, c'est le projet que j'aimerais. Là, tant que ma thèse n'est pas publiée, je ne peux pas lâcher mes inédits. Mais après, ce serait l'idée de faire une anthologie, oui.
Je suis, j'allais dire sans voix, mais je trouve extraordinaire le travail que vous avez mené, Claire Auduit et Baptiste Cogitor. Vraiment bravo, parce que c'est absolument fantastique, et l'émotion qui s'en dégage ne peut être, pas divulguée, pas échangée, pas profusée. Ça, c'est une évidence. Donc, merci beaucoup Claire Auduit, merci beaucoup Baptiste Cogitor d'être venu dans nos studios pour en parler. On vous retrouve dans les expositions et dans l'itinérance de votre exposition du 1er au 31 octobre à Célestat, à la médiathèque rue Espace Gilbert Estève, du 2 au 10 novembre à l'ancienne synagogue de la rue des Juifs à Bergheim, du 12 au 28 novembre au collège doctoral européen, c'est à Strasbourg, et en 2014, au mois de janvier, février et jusqu'au mois de juin de Strasbourg, en passant par Kaisersberg ou Colmar. Toutes les informations sur le www.rodeodame.fr, rodeodame d'une seule traite, sans accent. Et vous retrouverez ainsi toutes les informations, et bien sûr ici à la radio, sur le site de la radio, où nous ferons bien entendu un lien. On vous mettra également, et nous vous l'avons dit, en rapport avec la Vidzo, parce que je crois qu'il est absolument indispensable que vous soyez présent au salon du livre de la Vidzo pour votre exposition sur le livre de photos Les Gardiens des Lieux. Merci à vous.